parlera, j'espère. Est-ce qu'il y a des questions? De toute façon, je pense que nous pouvons prendre le parti d'avoir une heure de retard très rapidement. Tu partiras avant la dernière. Patrick.
Oui, très rapidement, sur Schiller, je voudrais rebondir. Est-ce que les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme ne renversent pas tout simplement la
perspective? Enfin, en tout cas, oui. Tout simplement, c'est peut-être plus compliqué, oui. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui serait intéressant justement dans la confrontation entre les deux.
C'est-à-dire, c'est bien, chez Schiller, si je le résume à une formule, il s'agit bien d'une éducation esthétique à la moralité.
Oui, on peut la résumer comme ça, oui. Ouais. Ouais, oui. Alors que chez Kant, c'est tout simplement interdit. Il n'y a pas d'éducation esthétique à la moralité, mais seulement une éducation morale à l'esthétique qui aura un retentissement en retour sur la réceptivité à la moralité. Mais encore une fois, le passage se fait toujours dans ce sens-là. En fait, pas de la nature à la liberté, mais plutôt de la liberté à la nature. C'est plus compliqué pour le sensible et le suprasensible, mais en tout cas, c'est très certainement dans ce sens-là, pour ce qui est... C'est toujours la raison qui recherche dans le sensible des traces de sa propre exigence.
C'est étonnant, parce que Schiller se présente comme un continuateur de Kant. Et j'ai toujours trouvé, effectivement,
Il s'en écarte plus violemment dans les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme déjà que dans Grâce et Dignité.
Oui.
Mais même dans Grâce et Dignité, la façon dont il s'en écarte déjà est une rupture dans le cadre kantien. Mais justement, il est sans doute pas tenable dans le cadre kantien qu'il continue d'essayer de maintenir envers et contre tout dans Grâce et Dignité. Pardon.
Débats esthético-moraux pouvant aussi servir à l'épreuve d'esthétique, n'est-ce pas?
Oui, j'ai essayé d'être efficace pour l'agrégatif. Je me souvenais que le mois de décembre, c'est le moment où on commence à paniquer. Donc,
Très bon résumé des lettres de Schiller dans Herbert Marcuse, Eros et civilisation, dans la troisième partie, je crois, vers la fin. C'est un chapitre qui résume parfaitement bien les lettres de Schiller.
Pas d'autres questions? Venu de la paysannerie savoyarde, car nous en avons une illustre représentation. Voilà. Non point de la paysannerie,
je l'ai défendu. La
Savoie. Alors, moi je me permets un petit quelque chose sur le savoyard. Non, parce qu'en fait, ce qui est étrange quand on n'est pas dans la perspective d'essayer de rendre raison du texte, du passage, où en effet le savoyard arrive... à un moment où il est question d'inculture, en fait. Mais est-ce que, plus philosophiquement et pas philologiquement, si le savoyard n'est pas réceptif au sublime, ce n'est pas tant parce qu'il est inculte, et ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'est pas sensible à la moralité, hein, mais qu'au fond, sa sensibilité aux idées morales n'a pas été travaillée, raffinée, etc. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il n'a pas de sentiment moral, en effet, mais c'est-à-dire qu'il... Il n'y a pas cette élaboration de la sensibilité morale qui pourra déboucher sur aussi un plaisir esthétique.
Bref, mais oui.
Est-ce qu'on ne peut pas se dire quand même que si le savoyard n'est que peu réceptif à la sublimité des glaciers, c'est non pas par inculture en matière de moralité, mais parce qu'au fond, dans la montagne, lui, il travaille.
Oui, mais c'est ce que j'indiquais.
C'est-à-dire par intérêt.
Oui, c'est ce que j'indiquais, c'est que justement, lui, il a subi la violence du glacier.
C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la position contemplative désintérêt, parce que pour lui, la montagne, c'est un outil de travail, c'est... Et donc, au fond...
Et la menace est réelle. Donc, voilà. Il a raison d'en avoir peur. Mmh. Il a raison de trouver que l'amateur des glaciers est un fou. Mmh. Parce que qui irait, justement, s'exposer à ce danger dont lui cherche à se protéger dans son existence quotidienne? Donc, oui, très certainement. C'est l'intérêt ici, c'est plutôt un intérêt qui fait obstacle à la possibilité du désintéressement contemplatif que réclamerait le sublime.
Parce qu'en fait, de même que sur le versant positif, c'est le versant plaisir, il y a plaisir intéressé et plaisir désintéressé, et que si on est seulement dans la posture de la jouissance, on ne peut pas ressentir le
gros.
Cette question du désintérêt, elle se pose aussi dans la dimension négative de l'affect, c'est-à-dire qu'au fond, la crainte, c'est un sentiment intéressé, négativement, intéressé, et que
c'est pour ça que une des conditions du sublime,
il est dans le travail et dans la crainte de la réalité, et donc il peut pas être adopté cette posture de désintérêt sans laquelle il y a
peur. Voilà. Et une des conditions du sublime, c'est de pas avoir peur. Quand on le dit expressément,
il faut être en sécurité.
Mais est-ce que l'idée de culture des idées morales peut être réintroduite peut-être qu'on peut imaginer justement qu'un jour un brave paysan savoyard, comme le dit Kant, qui aurait cultivé son sentiment, pourrait justement voir cet intérêt moral s'imposer justement à l'intérêt immédiat quotidien, et que tout d'un coup, au milieu de ses travaux, lève la tête pour admirer les glaciers. Et du coup, ici, pour essayer de travailler dans le sens de Kant, on pourrait imaginer comment justement la culture du sentiment moral permet de supplanter l'intérêt immédiat qui serait le sien. Mais c'est quand même, enfin, culture du sentiment.
Il faut penser ça en termes de supplanter, ou parce qu'au fond, c'est surtout une posture très spécifique à pouvoir adopter, mais elles se combattent pas nécessairement, enfin, au sens où nous sommes tous, y compris notre voyageur, en sauce sûre, il est aussi intéressé et désintéressé dans la plupart de ses rapports au monde.
Mais s'il est trop intéressé, s'il est sur le point de tomber dans une crevasse, il n'admirera plus le sublime.
Oui, voilà.
Parce qu'il sera trop violent. Donc il y a quand même un rapport de force, me semble-t-il, entre l'intérêt sensible et justement la possibilité de ressentir l'intérêt moral sous forme contemplative dans le sublime.
D'accord. Et une autre question concernant le rapport entre sublime et respect, qui en effet est si proche que parfois il semble quasiment se confondre. Et donc tu citais ce texte où il semble que le départ entre le sublime et le respect tienne au fond simplement à des conditions extérieures, c'est-à-dire que le sublime, ce serait du respect projeté sur le dehors, c'est-à-dire que la subreption produirait la spécificité du sentiment du sublime, mais que le sentiment en lui-même, si ce n'est par l'extériorité au fond de son objet, ne serait pas spécifique. Et alors, et donc tu utilisais l'expression de démobilisation au sens effacement du mobile, et donc de l'intérêt. Démobilisation par subreption. Donc c'est la subreption qui aurait des effets de démobilisation. Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait se dire que le sentiment du respect, si je résume, mais alors c'est retravaillé un peu dans en effet, de manière très intéressante d'ailleurs dans la troisième critique, mais d'après la deuxième, le sentiment du respect est double, puisqu'il y a d'abord un abaissement de la sensibilité qui est analogue à une douleur, puisque la raison fait violence à mes penchants et puis terrasse la présomption, etc., etc. Mais qu'au fond, ce respect devient aussi un sentiment positif parce que, enfin, en vertu de l'agent de cet abaissement de ma sensibilité. C'est parce que c'est ma raison qui abaisse ma sensibilité que aussi il y a cet analogue du plaisir. C'est-à-dire qu'au fond, dans le respect, il y a quand même une détermination causale dont la raison est l'agent.
Oui.
C'est parce que la raison humilie ma sensibilité que, me reconnaissant au fond comme humiliant au sens actif, j'éprouve aussi cette... Alors que dans le sublime, au fond, il me semble que la référence à la rationalité, et c'est ça qui ferait quand même qu'il y ait une autonomie propre du sentiment, la référence à la rationalité est seconde. C'est-à-dire qu'il y a d'abord cet abaissement de la sensibilité, lorsque je vois l'océan en furie, ou etc., etc., qui réduit mes forces à rien, et que c'est cet abaissement qui éveille en moi le sentiment d'une signification tout autre de mon être, confié à la raison, à la moralité, à la liberté, etc. C'est-à-dire qu'au fond, dans le sentiment du sublime, le moment d'abaissement est premier. Et que c'est lui.
Mais dans le respect aussi. Enfin,
oui,
le respect, il est premier.
Mais c'est un effet. L'abaissement.
Non, parce que dans le sublime, par exemple, si on prend le sublime mathématique, si je ressens justement le sentiment d'humiliation, c'est parce que je n'arrive pas à répondre à l'exigence de la raison, qui est celle justement de devoir ressaisir la totalité de l'expérience et donc d'essayer de saisir toujours plus loin. Et ce que je ressens, c'est justement mon impuissance à satisfaire à ce qui est pourtant une exigence de la raison. Et c'est précisément cette impuissance qui manifeste, parce qu'elle est précisément... Parce que justement, elle est précisément le rapport dans lequel doit se tenir la sensibilité par rapport à la raison, c'est-à-dire celui d'une soumission, d'une... Mais je pense que là aussi, il y a quand même au préalable une... cette action causale de la raison, elle est réelle. C'est-à-dire que je ne ressentirai pas l'humiliation du sublime, dans le sublime mathématique en tout cas, si la raison ne me poussait pas à toujours rechercher, à ressaisir l'unité de ce qui me présente à la perception. Je regarderai le désert, l'océan, sans... Donc je ne crois pas...
Alors, ça c'est un point qui est problématique dans le texte lui-même, parce que quand on emploie des expressions qui sont un peu fluentes comme ça dans le sublime mathématique, et donc, en effet, on peut soutenir ça, on peut aussi penser que... je pense, que... parce que bon, quand je regarde l'exemple là, de la pyramide, ou etc., y a une dimension de l'imagination elle-même qui est un appel à synthétiser. Tu veux ?
Oui, l'idée de la raison. Mais la raison, l'imagination, elle a synthétisé, mais pas à synthétiser la totalité. Ça, c'est toujours la raison qui l'impose à l'imagination.
Sauf que, en fait,
et l'imagination ne peut pas y répondre, et c'est ça qui la rend...
Et si on a affaire, par exemple, à la pyramide, c'est une totalité qui est très réduite. C'est pas la totalité de l'expérience. Et en fait... il y a un débordement de ma capacité à synthétiser imaginativement. Et la formule qu'emploie Kant, c'est cet échec éveille le pouvoir des idées, rappelle les idées. Et donc, on ne sait pas très bien au fond ce qui précède. Tu vois. Et je pense qu'on peut quand même trouver, mais ça on en discutera, c'est pas le moment, moyen de penser qu'il y a une consistance propre
du sentiment. Ah non, mais ça, je le nie pas du tout.
Parce que même, si tu veux, cet horizon de totalisation se dessine prioritairement à l'intérieur même du champ sensible, et qu'au fond, c'est dans son accomplissement sur le mode de l'échec qu'il est rapporté à ce que la raison demande ailleurs.
Mais il est vécu comme un échec parce que la raison le demande encore et toujours. Sinon, il ne serait pas vécu comme un échec.
Ben, tu vois ce que... C'est là-dessus qu'on serait d'accord. Pas d'accord.
Ouais. Mais ensuite, moi, je suis d'accord avec toi. Je ne cherche pas du tout à dire qu'il n'y a pas de spécificité. J'ai envie de dire, il y a certains textes de Kant dans lesquels Kant pousse si loin l'analogie avec le respect que le sublime semble comme absorbé par le respect. Il va jusqu'à dire, quand même, le texte il est réel, il va jusqu'à dire le sublime, c'est le respect pour la destination suprasensible affectée d'une subversion par laquelle nous le projetons à l'extérieur. Et c'est particulièrement vrai du sublime dynamique, plus que peut-être du sublime mathématique.
Parce que si tu veux, dans le cas du sublime dynamique, c'est clairement, il me semble, on voit pas, parce qu'il n'y a pas en plus cette exigence de totalisation formelle, confronté à l'océan en furie, si phénoménologiquement quasiment on décrit cette expérience, je me retrouve annihilé, potentiellement, sauf que je suis en sécurité, sinon
je pense qu'à ma vie.
Je me barre ou j'ai peur, mais si je suis en sécurité, je me trouve sensiblement annihilé, et c'est cette annihilation du sensible qui renvoie à une conservation d'une toute autre sorte, etc.
Ouais. Mais pourquoi elle le renvoie ?
La référence à raison, elle est seconde. Elle est absolument constitutive de la dimension de plaisir.
Sauf qu'elle y rend. Pourquoi est-ce qu'elle y renvoie ? Elle y renvoie parce qu'elle est saisie comme étant précisément ce rapport que la raison exige de la sensibilité, en fait, ce rapport de soumission qu'elle exige. Et donc, il faut que l'exigence de la raison soit déjà présente. Et qu'elle soit déjà présente. Et donc, en un sens, je trouve qu'on a à peu près la même structure que dans le respect, puisque, comme tu disais tout à l'heure, de toute façon, chronologiquement, dans le respect, on commence par sortir de la douleur. Et ensuite, parce qu'on la rapporte. Donc, il n'y a pas. Même si l'action causale, c'est la raison qui produit cette douleur, je vis d'abord la douleur et ensuite je.
En fait, oui. En fait, la distinction, c'est, parce que ça paraît pas du tout anodin, en fait. Hein,
non.
C'est savoir, au fond, ce qui est premier dans cette histoire, le sensible ou la raison. Et en fait, je pense que quand tu parles de démobilisation, ça veut bien dire que la mobilisation est d'abord là, et en effet. Et moi, j'inclinerais plutôt, mais
justement, c'est pour ça que...
On n'est pas d'accord.
C'est pour ça que la culture morale doit être là d'abord pour avoir le sublime. C'est-à-dire que si quiconque n'a pas cette culture morale, donc il faut qu'il se préalable.
Cette expérience-là, elle a pas besoin d'une démobilisation parce que c'est une expérience d'amobilisation.
Oui, d'amobilisation. Oui, je suis d'accord. D'accord.